Merci Alexis, rebonjour à tous. Je ne sais pas si d'autres personnes nous ont rejoints entre-temps. Alors comme je vous l'ai dit, je suis avocat. On travaille avec le cabinet Jacob Avocat sur beaucoup de sujets, des industries innovantes. Alors HoloLens, ça va peut-être arriver. Je vois que ça peut, pourquoi pas, aider à constituer des NFT pour des ventes futures, que ce soit sur des marchés primaires ou secondaires. On va venir à tout ça. Je vais aller assez rapidement sur le début, puisque on a déjà eu une présentation du métaverse NFT Web 3. Je vais vous en adresser une explication qui serait un petit peu plus juridique. On a compris que le métaverse représentait le futur du Web 3. Ça, bien compris. Le Web 1 permettait l'accès à l'information. Le Web 2 permettait l'échange sur les réseaux sociaux, mais le Web 3 permet à chacun, marque, annonceur, comme propriétaire et créateur de contenu, d'échanger par le biais de crypto-monnaies et surtout d'être maître de son propre contenu. J'insiste sur ce point parce qu'en propriété intellectuelle, soit les marques se retrouvent lésées parce que parfois exploitent des droits qu'ils n'ont pas forcément réglés en amont, soit des artistes, eh bien, se font un petit peu avaler par des grandes marques également et finissent par faire des créations qui aujourd'hui valent des millions, mais ils n'en reçoivent rien. On va parler des Bored Ape, dont la créatrice a attaqué, celle qui a fait le design a attaqué Bored Ape, puisqu'elle n'a perçu aucune redevance sur les créations. Et ça, bien sûr, il fallait que ce soit prévu de manière contractuelle. Donc, en cela, le métaverse, comme j'ai pu le mentionner tout à l'heure, ce n'est pas véritablement une révolution, c'est une évolution de ce que était le gaming dans les années 2000. Second Life, Sims, je ne vais pas m'étaler là-dessus, on en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, ce que ça permet aux marques, comme aux créateurs, d'enlever toute barrière pour permettre de nouveaux partenariats, pour avoir une source de revenus qui peut être extrêmement intéressante si elle est bien exploitée et si on arrive à toucher la bonne cible. Le métaverse permet l'intégration de NFT ancrés dans la blockchain. Vous savez maintenant ce que c'est que le NFT. C'est un nouvel outil donc, qui permet la mise en valeur de partenariats, de monétisation sur des objets virtuels. Attention, je le répète, quand on achète un NFT, on n'achète pas une œuvre, on achète un fichier numérique. Ça également, ça doit être prévu. Mais il y a des avantages à tout ce domaine qui nous paraît nouveau et qui parfois fait peur. On se dit qu'il n'y a que les plus gros qui peuvent s'y lancer. Mais pour les marques, ça permet de nouvelles perspectives d'exploitation et pour les artistes, mettre de leur contenu. Il y a beaucoup de petits artistes qui ont créé des NFT qui aujourd'hui s'arrachent à des millions et des milliards sur des galeries, sur OpenSea, sur des marchés de revente secondaire sur lesquels je vais y revenir. Donc, pourquoi on en parle tant? Je viens de l'expliquer, mais je vais donner quelques petits exemples et je vais rebondir sur McLaren, qui a mis en vente, pas plus tard que le 11 mai dernier, des versions virtuelles de la McLaren P1, P1 GTR, en édition limitée, dans le Web 3. Ça passe tout ça par des métaverses. On a parlé de Nike qui, dès fin avril, a dévoilé sa première paire de chaussures virtuelles. Ils ont commencé à déposer les marques déjà en octobre dernier. Spotify fait un premier pas dans le métaverse en intégrant Roblox, pas plus tard qu'il y a quelques jours. Donc aujourd'hui, on constate que toute industrie confondue s'y met. Et là, c'est un exemple, secteur luxe, retail, des marques connues. Mais on a également de la grande distribution qui s'y met. Quand on a un Carrefour qui se met dans un métaverse, qu'on a un casino ou un Monoprix, il n'y a plus de limite. Aujourd'hui, on peut faire... Amazon avait déjà créé une sorte de shopping en ligne, etc. Là, on a dépassé tout ça. On est véritablement dans un monde qui est analogue. Ce n'est pas une réalité virtuelle, c'est un monde analogue. C'est un monde absolument différent. On fait la même chose qu'on fait dans la réalité, mais on le fait dans le métaverse. Pourquoi ? Parce que c'est un nouveau terrain d'exploitation, comme j'ai pu l'expliquer. C'est un nouveau terrain d'exploitation pour les marques, pour les consommateurs, pour tout le monde. Pour diverses raisons. Mais attention, avant de se lancer sur tout l'aspect business qui donne envie, j'ai envie quand même de vous alerter sur les différents risques qu'on voit déjà aujourd'hui arriver, qu'on voit au sein du cabinet. On a déjà des éléments qui nous ont permis de dire que le métaverse n'est pas, on va dire, je dirais pas qu'il n'est pas à la portée de tous, mais il faut bien s'entourer. Pourquoi ? Parce que l'aspect juridique est crucial. L'aspect contractuel, pour construire un métaverse ou pour créer un projet au sein d'un métaverse, pour créer un projet NFT, ça nécessite plusieurs contrats avec différents partenaires. On a le partenaire souvent qui est dans la communication, marketing. On a également le partenaire technique qui va venir minter le NFT, qui va véritablement tokeniser l'œuvre en fichier numérique. On a également parfois des contrats de collaboration avec des artistes. Je donne comme exemple le buste de Booba qui a été vendu en NFT. Donc, il y a quand même des collaborations qui peuvent être multiples et variées. On a parlé du secteur du luxe. Il y a un aspect marque. Il y a véritablement différents contrats. Tous ces contrats sont liés les uns aux autres. Ce ne sont pas des contrats qu'il faut traiter séparément. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, on va créer le droit. On a bien évidemment des dispositions qui nous permettent de protéger droit d'auteur, droit de propriété intellectuelle, mais aussi protection de données personnelles et de sécurité informatique. Tout ça, ça existe. On ne va pas inventer un nouveau droit des métaverses. En revanche, ça nécessite de reprendre l'ensemble des contrats. Ça nécessite de faire des avenants. Ça nécessite d'établir de nouveaux contrats pour prévoir ces nouveaux terrains d'exploitation. Ça nécessite en amont de protéger ses marques, ses logos, ses créations. Et ça, ça va être l'enjeu le plus crucial et là où il y a le plus de risques. Pourquoi ? En propriété intellectuelle, le plus grand risque, c'est donné à tout le monde, c'est la contrefaçon. Le Gucci, le sac Birkin, c'est le plus beau exemple qu'on puisse vous donner puisque ça parle à tout le monde. En matière contractuelle, risque de litige et contentieux. On l'a vu avec la créatrice des Bored Ape qui aujourd'hui lance une action pour récupérer les redevances qu'elle n'a pas pu toucher, alors qu'aujourd'hui, ça s'arrache à des millions et des milliards de dollars. En données personnelles, il y a des risques de cyberattaque. Attention aux NFT qui ont été volés sur OpenSea. Il y a également un sujet de responsabilité des plateformes de marché secondaire. Il faut bien lire leur CGV et leur CGU. Il n'y a pas encore de véritable responsabilité de plateforme puisqu'aujourd'hui, ils sont encore considérés comme des hébergeurs de contenu. Mais on estime qu'avec le DSA et le DMA qui viennent d'être votés par le Parlement européen, que ça peut peut-être changer. Donc aujourd'hui, on a des éléments qui vont se rajouter au arsenal qu'on a déjà. Alors, comment éviter ces risques et permettre sereinement aux marques de se lancer dans le métaverse ? L'idée, c'est premièrement, se protéger en amont. Deuxièmement, il faut pouvoir se défendre en aval. Et troisièmement, il faut imaginer un futur prometteur et donc créer des nouvelles collaborations, parfois des nouveaux types de partenariats qu'on n'imagine pas dans un secteur e-commerce classique et qu'on peut imaginer au sein d'un métaverse. Pour se protéger en amont, rien de bien compliqué, on en a parlé tout à l'heure, il faut déposer sa marque. Qu'elle soit verbale, ça veut dire Content Week, par exemple, qu'elle soit accompagnée d'un logo, une marque semi-figurative, il faut absolument la déposer. Évidemment, dans un aspect classique, quand on dépose une marque française, on s'adresse à l'INPI. Quand on dépose une marque européenne, on s'adresse à l'EIPO, qui est l'Office de propriété intellectuelle pour l'Union européenne. Et quand il s'agit d'une marque internationale, eh bien, c'est l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Mais attention, dans un métaverse, il est où le territoire ? Ça peut être le monde entier. C'est souvent le monde entier. Quand bien même un sandbox est créé par un Français, Sébastien Borgier, coucou, c'est basé à Hong Kong. Donc lorsqu'on crée des éléments, des marques, lorsqu'on développe des logos au sein de métaverses comme ça et qu'elles ne sont pas protégées, eh bien, on ne peut pas forcément se défendre contre une action en contrefaçon. Quand je dis se protéger, ce n'est pas forcément faire juste un dépôt. Peut-être parmi vous, vous avez déjà des marques qui ont déjà fait l'objet de dépôts. Mais il faut prévoir d'autres dépôts supplémentaires qui vont prendre en compte les technologies du métaverse, du NFT. Pourquoi ? Parce que dans une classe de, par exemple, prenant les classes 25, c'est la classification de Nice, une classe 25 est destinée aux classes de vêtements. Pour du vêtement, on ne va pas forcément prévoir de protéger une classe 9 en logiciel. Dans un métaverse, pour la création d'un NFT, aujourd'hui c'est nécessaire. Aujourd'hui, on peut prévoir des libellés très distincts. C'est ce qu'a fait Nike en octobre. Des biens virtuels téléchargeables. On prévoit dans les libellés de protection des classes les multimédias, NFT, website, boutique en ligne, environnement virtuel. J'élargis au gaming, puisque le gaming est un grand sujet dans le métaverse. Je pense qu'on ne peut pas imaginer l'un sans l'autre. Blockchain, NFT, token, médias numériques. Tous ces nouveaux libellés, toutes ces nouvelles classes nécessitent un dépôt supplémentaire pour protéger vos marques et protéger vos créations. Quand je parle de marques, je parle bien sûr également de logos. Il y a d'autres moyens de protéger des logos et protéger d'autres créations numériques. Quand on parle de code source, logiciel, il ne faut pas oublier que ça aussi c'est protégeable. Peu de gens arrivent à protéger un logo, un code source ou un logiciel. Et pourtant, le logiciel bénéficie d'un droit sui generis, un droit d'auteur. Il peut potentiellement, dans le cadre d'une organisation originale, bénéficier d'une protection à ce titre. Ça ne nécessite rien du tout. Nous, au sein du cabinet, on recommande souvent un dépôt à l'APP, l'Association de protection des programmes. Mais surtout, et c'est là le véritable enjeu, un eurodatage dans une blockchain. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on fait un eurodatage, certes, je précise que ça n'octroie aucun titre de propriété industrielle. Quand on dépose un dessin numérique, un GIF, musique, clip dans la blockchain, ça n'octroie pas de titre. En revanche, ce que ça permet, c'est que ça permet d'eurodater le contenu et d'eurodater le créateur. Ça veut dire qu'en cas de contentieux, quand bien même on n'a pas de titre de propriété industrielle, parce qu'il faut le dire, tout le monde n'a pas forcément les moyens de se le procurer. Un dépôt à l'INPI peut coûter jusqu'à 400 euros, une enveloppe solo 75 euros. Il y a des techniques aujourd'hui par blockchain. On peut y mettre de nombreux éléments. Il y a des solutions que l'on développe d'ailleurs avec le cabinet Jacob Avocat, où on permet des eurodatages pour les industries du luxe, notamment qui font souvent des collections, qui ne vont pas déposer des dessins et modèles tous les matins. Il y a une solution qui existe qui permet un dépôt annuel avec un budget fixe sur la blockchain. Ça permet quoi ? Ça permet qu'en cas de contentieux, on peut prouver qu'on a été le premier à créer ce dessin. Ce n'est pas un titre, encore une fois, mais aujourd'hui, les tribunaux et la jurisprudence commencent à accepter la blockchain comme moyen de preuve. Ça, c'est très important. Dans le cadre de la solution qu'on a pu développer, on se dit, la blockchain, oui, c'est immuable, ça ne bouge pas, etc., mais est-ce véritablement une preuve juridique ? Avec Jacob Avocat, on a associé la blockchain avec une étude d'huissier qui permet de délivrer un certificat d'huissier qui, lui, a une valeur juridique, donc incontestable en cas de contentieux. Ça, c'est pour protéger ses autres créations. Bien évidemment, c'est pas fini. Il faut également vérifier la chaîne de droit contractuel. J'en ai brièvement parlé en parcimonie, mais pour tout projet, que ce soit métaverse, NFT, peu importe sa création, en fait, j'ai envie de vous dire, après avoir protégé en amont les marques visuelles, logos, musique, animation, clips, campagnes publicitaires, et on y passe, il est nécessaire d'avoir la certitude d'être bien propriétaire des droits avec les créateurs qui ont été sollicités dans la création du projet. Pourquoi ? Parce que souvent, une grande marque, ils ne vont pas forcément dessiner le truc en interne. Je parle vulgairement, mais c'est vrai, les grandes marques et les grands annonceurs font appel à des freelances, font appel à des stylistes. Il y a des prestataires qui sont purement des prestataires artistiques, des créateurs, avec lesquels il faut prévoir un contrat. Il faut prévoir une cession de cette création, déjà. il faut prévoir qu'elles puissent être exploitées dans un métaverse, dans un univers comme le gaming, par la voie d'un NFT. Pourquoi ? Parce qu'en droit d'auteur, tout ce qui n'est pas prévu est interdit. La cession doit être absolument précise. Et ça, ce n'est pas le cas aujourd'hui. D'où la nécessité de mettre en place des avenants. Pour beaucoup d'entreprises, c'est ce qu'on fait. On remarque qu'il y a des contrats en place, mais il y a un nouveau projet NFT avec, je cite encore comme exemple Booba, eh bien, il faut prévoir un avenant pour venir prévoir une exploitation dans un métaverse, dans un NFT, et il faut faire ça pour absolument tous les projets, c'est absolument nécessaire. Dans les nouveaux contrats, il faut également tenir compte de ce nouveau terrain d'exploitation. Et j'ajouterai un troisième type de contrat dont on ne parle pas assez. C'est les contrats avec les prestataires techniques. Pourquoi ? Les contrats avec les prestataires techniques, je vais vous le dire honnêtement, ce n'est pas accessible à tous. C'est extrêmement, extrêmement, extrêmement technique. Il y a aujourd'hui des entreprises qui le font bien, mais c'est encore à tâtons. On est encore en train de créer le droit. On est en train de modifier des dispositions de propriété intellectuelle pour séparer parfois l'acquisition de la propriété du fichier numérique que du contenu qui est au sein du fichier numérique. Donc, on est véritablement dans un domaine très, très innovant. Mais le prestataire technique, c'est lui qui va se charger de créer le wallet, de minter le NFT, de transformer l'œuvre en fichier exploitable en NFT, donc tout simplement le tokeniser sur la plateforme. Parfois, il va même être amené à faire le smart contract. Et attention au smart contract. Le smart contract, nous, juristes, on n'est pas capable de le traiter. Pourquoi ? Parce que c'est une ligne de code. Le smart contract est simplement un codage, d'où l'importance du prestataire technique. Et l'encadrement des droits via le smart contract, en tant qu'avocat, en tant que juriste, on peut le faire en amont. On peut prévoir avec le prestataire technique un contrat déjà très solide, où l'on demande ce qui va devoir figurer dans le smart contract. Pourcentage de redevance, que ce soit dans le marché primaire, dans le marché secondaire. S'il y a un contenu qui doit faire l'objet d'un token, dans une vente, etc., il faut définir très très bien le contenu qui va faire l'objet d'une vente. Il ne faut pas qu'on passe d'un contenu à une collection qui fasse l'objet d'une vente et qui échappe à la marque, au créateur qui a décidé de s'investir dans un projet comme ça. Le prestataire technique, si nous, on ne peut pas rédiger des lignes de code, même si certains avocats, on commence à apprendre à le faire, mais le prestataire technique va devoir suivre une certaine lignée que l'avocat va dicter en fait. Donc, redevance, contenu, étendue des droits, édition, support, type d'usage, qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on obtient comme droit quand on achète un NFT ? Est-ce qu'on acquiert une licence mondiale, comme les Bored Ape ? Ou est-ce que c'est une licence qui nous permet uniquement d'avoir une copie privée, on ne peut pas le revendre ? Ça peut être prévu par smart contract. Est-ce qu'on prévoit une revente secondaire avec potentielle répartition des bénéfices ? Est-ce qu'on l'exclut du smart contract ? Est-ce qu'on fait des éditions limitées ? À combien ? Pendant combien de temps ? Est-ce que parmi les NFT qu'on crée, dans les collections qu'on crée, on choisit d'en faire 5 aux enchères et les autres, on fixe un prix différent ? Tout ça, ça doit être prévu. Pourquoi c'est nécessaire ? Parce qu'une fois que c'est fait, on ne peut pas le changer. Le smart contract, dans la blockchain, il ne peut plus être modifié. D'où l'importance de créer les contrats adéquats avec les prestataires adéquats et de la manière la plus précise possible. J'en reviens aux illustrations de Bored Ape. C'est une excellente illustration parce que c'est assez astronomique de voir quelque chose comme ça se produire. En France, très protecteur de droits d'auteur, et je parle au nom de l'Union européenne au final, lorsqu'on achète un Bored Ape, Yuga Labs, qui crée le Bored Ape, c'est d'une licence mondiale illimitée, de sorte qu'on devient propriétaire d'un droit sur tous les visuels et qu'on peut même en faire un usage commercial. Ça veut dire que vous achetez un Bored Ape, vous pouvez demain faire une collection t-shirt et les vendre. C'est quand même assez incroyable. Yuga Labs a également acquis CryptoPunk, et prévoient d'accorder des droits commerciaux de ces NFT à leurs propriétaires. Est-ce qu'on imagine que quelque chose comme ça peut se produire en France ? Je ne pense pas. Ça doit être limité dans le temps et dans le territoire. On n'a pas cette flexibilité qu'a les États-Unis. Mais c'est pour ça que j'appelle à une certaine vigilance. Et c'est pour ça qu'on parle de bulle. On dit tout le monde doit s'y mettre, mais tout le monde ne peut pas s'y mettre de la même manière. Quand on s'y met comme ça, et d'ailleurs, c'est toujours pas réglé au regard du litige de contrefaçon qu'il y a avec la créatrice des Bored Ape. Mais quand on s'y met de cette façon, ça crée une bulle spéculative qui est énorme, mais qui malheureusement fait beaucoup d'ombre à des projets qui marchent très bien, qui sont bien ficelés, tant contractuellement que par la voie des marques. Il y a vraiment des projets qui fonctionnent merveilleusement bien. Et il y a des projets parfois qui peuvent faire peur, déjà par le prix, et en plus par les contentieux qui peuvent en découler. C'est pas très long. Je vais vous parler maintenant business, puisque je sais que c'est ce qui intéresse. Il y a évidemment des nouveaux enjeux d'interconnectivité entre marques et consommateurs. Il n'y a absolument plus aucune barrière. Ça, c'est extrêmement intéressant. Ça permet le développement, comme on l'a dit, comme tout le monde l'a dit avant moi, d'échanges entièrement immersifs. La création de collections NFT au sein de Metaverse, ça permet de transformer l'industrie du e-commerce, et ça, pour tous les secteurs. Ça permet l'acquisition de nouveaux actifs immatériels. Aujourd'hui, on augmente la valeur de ces actifs lorsqu'on a des projets comme ça. Ça permet le développement de contrats de sponsoring, de partenariats, qui ouvrent des nouvelles perspectives de financement pour les marques et créateurs de contenu. Je vais donner un exemple de gaming qui se transpose très bien dans les métaverses. Les ventes in-game et le sponsoring in-game rapportent un chiffre d'affaires astronomique. Aujourd'hui, l'industrie du gaming et de l'e-sport, qui aujourd'hui, enfin, on va dire qu'elle converge vers le métaverse, a un chiffre d'affaires plus élevé que toutes les industries culturelles réunies en France et en Europe. Le produit, c'est plus que le cinéma, l'audiovisuel, la musique et l'édition. Les enjeux sont véritablement énormes. On a aujourd'hui déjà des dispositifs pour permettre ces protections, comme je vous l'ai expliqué. Mais il y a encore des choses qu'on apprend au quotidien. Quid du viol d'un avatar dans les métaverses? Il y a eu des attouchements sexuels entre avatars dans un métaverse. Comment gérer ça? Comment gérer la protection du droit à l'image dans un métaverse? Si on a aujourd'hui un arsenal juridique qui, je trouve, est fort, surtout en France, je pense qu'il y a encore beaucoup de questions en suspens. Et c'est des choses qu'on essaye de prévoir au fur et à mesure. Dans les contrats influenceurs, puisque certains font des drops NFT ou font des concerts dans les métaverses, dans certains contrats, on voit que les agents imposent des règles de conduite au sein d'un métaverse. C'est vous dire à quel point les contrats aujourd'hui sont précis et changent non seulement le comportement de la marque face à ce qu'elle crée, mais également le comportement du sujet de la collaboration, le comportement du prestataire technique qui va avoir de nombreuses obligations. Aujourd'hui, il y a à peu près 25 PSAN, prestataires de services d'actifs numériques qui s'enregistrent auprès de l'AMF pour bénéficier d'un agrément. Je pense que ça va donner de plus en plus confiance aux grandes entreprises de se lancer dedans quand on se fait accompagner par des prestataires qui sont agréés par l'AMF. Donc il y a véritablement un arsenal qui est déjà mis en place, mais tout est en train de se concrétiser au jour le jour. Et puis voilà, pour finir, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
T'attends pour des questions ?
Oui.
Actuellement, on n'a pas encore de jurisprudence à proprement parler. Malheureusement, beaucoup de critiques autour de la lente justice française. En revanche, il y a déjà eu, à titre personnel, au sein de notre exercice en tant qu'avocat, il y a des litiges qu'on règle par la voie d'un accord transactionnel. Donc, c'est que des questions sont soulevées. Ça ne va pas jusqu'aux tribunaux pour l'instant parce que c'est trop tôt. Ça a quoi ? Un peu moins de 18 mois. On n'a pas encore le temps de voir apparaître des décisions. En revanche, les conflits existent et font l'objet de protocoles transactionnels.